Allez, c'est parti. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, ou chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui eau, parce que la librairie La Cavale organise une rencontre autour de cette thématique avec deux spécialistes, du coup, qui sont avec nous, à distance ou en direct, avec Martin Arnoux. Bonjour, Martin Arnoux.
Bonjour.
Voilà, vous avez donc tout récemment publié un livre intitulé « Au pied du barrage » et qui nous raconte, c'est le sous-titre, « La lutte oubliée pour la Loire sauvage ».
Alors, c'est ça.
Hein, une lutte qui a eu lieu dans les cours des années 80-90. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, à mes côtés, Sylvain Baronne. Bonjour Sylvain Baronne.
Bonjour.
Donc vous êtes, vous, chercheur en sciences politiques, mais dans un lieu, ce qui pourrait surprendre, à l'INRAE. On n'imagine pas qu'il y a des chercheurs en sciences politiques qui travaillent à l'INRAE, voilà. Hein, et vous, c'est toutes ces tensions sociales et politiques liées à l'eau, mais aussi à l'écologie, au climat et en général. Une question hautement, très hautement d'actualité. Alors, pour commencer... pour nos auditeurs, cet entretien. Peut-être simplement quelques termes à préciser, puisqu'on va certainement les utiliser. Lorsqu'on parle de gestion de l'eau et de gestion des rivières, surtout, quelle différence il y a entre prélèvement et consommation de l'eau ? Alors, répond qui veut. Puisque, généralement, le grand public... assimile les deux ou ne fait pas bien la différence. Alors, Sylvain
Baronne... Je vais laisser M. Baronne, oui, il en parle très bien dans son livre, oui.
Alors, Sylvain Baronne...
Alors, c'est vrai qu'on peut confondre les deux. Prélèvement, qui dit prélèvement, dit on utilise de l'eau, on la restitue dans le milieu immédiatement. Qui dit consommation, notamment consommation nette, on prend de l'eau et cette eau est utilisée, donc elle n'est pas restituée directement au milieu. Fait que dans les prélèvements, le principal préleveur d'eau en France, c'est l'industrie nucléaire, puisqu'elle utilise beaucoup d'eau pour refroidir ses réacteurs, mais l'eau est immédiatement restituée au milieu, alors moyennement un peu de réchauffement, etc.
Mm-hmm.
Et le principal consommateur net d'eau, c'est, et de loin, l'agriculture. Parce que là, l'eau est utilisée pour les besoins des plantes, elle n'est pas restituée immédiatement au milieu.
Voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous me dites si je me trompe, que ce soit prélèvement ou consommation, ça ne veut pas dire que l'eau retourne au milieu, directement ou indirectement, dans un état de sanitaire identique à celui au moment où elle a été pompée, si je puis dire.
Alors ça dépend des usages. Généralement, quand l'eau est utilisée, elle n'est pas restituée comme ça. Enfin, donc, elle peut être réchauffée comme par l'industrie nucléaire, par exemple. Elle peut faire l'objet de traitements. Elle peut faire l'objet de pollution aussi. Donc selon les usages, effectivement, l'utilisation, le prélèvement, la consommation et la restitution au milieu, ce n'est pas souvent neutre, quoi.
Voilà. Alors, autre terme à éclaircir peut-être, on voit qu'il y a, en lisant vos livres, qu'il y a toujours des conflits autour de l'utilité. Comment on utilise l'eau, à quoi elle sert, et en même temps, comment préserver le milieu. Il y a une notion, quand on parle du besoin des usagers ou du développement local, on voit ce que c'est, mais il y a beaucoup la question de la continuité écologique qui est évoquée. Alors, ça, c'est plutôt votre domaine, Martin Arnoux.
Oui, je peux répondre en praticien. La continuité écologique, c'est tout simple. Une rivière normale, naturelle, c'est une rivière qui coule sur un lit qui n'a pas été entravé par des ouvrages et qui coule avec, alors c'est un concept, on appelle ça la continuité écologique, mais on pourrait dire une rivière naturelle, elle coule librement de la source jusqu'à son embouchure. Et puis depuis 2000 ans, 2500 ans à peu près, donc ça nous met très à l'aise, les hommes ont appris à construire des barrages, au début c'était des tout petits, et ils les ont construits évidemment en travers des rivières, notamment pour alimenter les moulins. Et cela constitue des obstacles qui sont plus ou moins hauts et qui entravent ce qu'on appelle cette continuité écologique. Alors quand il y a 10 petits moulins, c'est pas gênant. Quand il y a 50 grands barrages sur un cours d'eau, c'est plus embêtant.
D'accord. Alors, on va évoquer la lutte dans laquelle vous avez été engagé. Je crois que vous êtes entré dans les luttes environnementales avec cette lutte-là en 1988, autour de ce qu'on a appelé la Loire vivante. Hein, là, il y a eu des comités qui s'étaient créés. Alors, c'est une longue histoire. Hein, ça couvre, je regardais tout ça de près. Ça couvre à peu près les deux septennats de François Mitterrand, hein, si on prend le tout début de cette affaire-là. Mais ça va avoir un grand coup d'accélérateur en 1980, hein, il me semble. Est-ce que vous êtes d'accord de dire ça, avec l'inondation, enfin la crue de la Loire, une crue très brutale, très violente en septembre 80, qui va encourager les politiques publiques, ben voilà, à s'intéresser de très près à la question de la Loire et puis à penser en termes de barrages, de retenues, et ainsi de suite.
Oui, c'est ça. Je crois que vous avez bien la chronologie en tête. Il y a deux éléments à prendre en compte. Le vieux désir de l'homme de contrôler la nature, les fleuves, et l'homme de société industrielle ont complètement contrôlé le Rhin, le Rhône, l'ensemble des grands fleuves européens, l'Ebre, on peut aller en Italie, partout, tout au long du 19e et du 20e siècle. Et le dernier fleuve qui échappait à notre contrôle, c'était la Loire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands barrages, parce que c'est un fleuve qui coule encore avec une continuité écologique, pour reprendre ce terme, qui est plutôt fonctionnel. Et il y avait un vieux désir donc d'aménagement, mais pas d'argument pour aménager. Et en 80, il y a eu une crue terrible, très très impressionnante, ce qu'on appelle une crue cévenole, à Brive-Charensac, sur le cours supérieur de la Haute-Vallée de la Loire. Donc on est en Haute-Loire, pas loin de l'Ardèche, pas loin des sources du fleuve. Il y a eu des 8 morts et puis à peu près 80 millions d'euros de dégâts. Et là, l'État, les élus, les partis politiques, les entreprises ont dit « ça suffit, nous allons aménager la Loire et construire des barrages qui avaient pour vocation principale, c'est important de l'avoir à l'esprit, de contrôler les inondations, de contrôler les crues pour diverses raisons et de diverses manières. »
Voilà, alors vous avez fait partie de ces militants qui ont protesté hein, contre cette solution, notamment autour du barrage de Serre de la Fare, hein, qui est au centre de votre narration dans le livre. En quoi cette décision des barrages paraissait non seulement inappropriée au milieu où il y avait le barrage, mais comme une mauvaise réponse à la problématique posée?
Ça, si vous voulez, c'est apparu au fil de la lutte. La première, et c'est ce que j'essaye de faire ressortir, la première des dimensions de cette résistance complètement inattendue de la part de citoyens, de mères de famille, d'étudiants, de chômeurs, de chefs d'entreprise, de médecins, de tout ce que vous voulez en Haute-Loire, c'est un attachement profond, sensible à des paysages magnifiques, à une haute vallée. Les gens ne comprennent pas pourquoi on vient construire un grand barrage pour faire face à un risque d'inondation qui est connu, qui est inscrit dans la mémoire des personnes. Et tout le monde parmi ces citoyens sait que s'il y a eu des morts, c'est parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant de la culture du risque, c'est parce qu'on avait construit en zone inondable, c'est parce que l'homme avait été un peu arrogant. Et donc au début il y a ça, cet attachement. Et puis ensuite, au fur et à mesure du travail, nous nous rendons compte, ces citoyens et un ensemble d'acteurs, dont beaucoup de scientifiques regroupés dans le mouvement Loire Vivante, que les grands barrages pour régler les risques d'inondation, c'est terminé, les endiguements, c'est terminé, parce que déjà apparaît ce qui maintenant est une évidence pour tout le monde, c'est que pour bien gérer le risque de crue, il faut laisser de la place au fleuve, il faut faire ce qu'on appelle la restauration de leur espace alluvial pour que les crues fassent ce qu'elles font depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'elles envahissent des espaces dans lesquels l'homme n'a pas imprudemment construit. Donc tout ça, au fil du temps, s'est montré une équation gagnante. L'attachement des hommes et l'énergie qui pousse à défendre son territoire contre des envahisseurs pour s'amuser un peu. Et puis le fait que techniquement, nous avons démontré, ça je ne vais pas le développer là, mais qu'il était bien plus intéressant de respecter, restaurer les zones inondables, y compris enlever des usines dans les zones inondables, que de noyer une haute vallée et de construire des grands barrages et des digues sur tout le fleuve Loire.
Voilà, donc un autre principe de prévention du risque, de prise en compte du risque. Alors, on fait une toute petite pause et puis on se retrouve après la pause pour la suite de cet entretien.